Ce qui fait partie des... Alors, en parlant des résonances ou des choses qui relient un peu vos présentations à tous les trois, Samir nous a montré plusieurs exemples de pratiques aujourd'hui, alors, où tu as fait des screenshots justement sur des personnes qui se font réprimander aujourd'hui pour des pratiques qui sont rapprochées à des pratiques magiques. Dans la présentation de Teresa, il y a eu à plusieurs moments cette résurgence, entre autres, de la figure de la chauve-souris, alors de la transformation de la femme en plante, en chauve-souris, dans un contexte un peu différent, mais c'est à un moment où je pense cette question de la remise en scène et d'une sorte de survivance de certains motifs qui traversent, même sous forme déplacée, des contextes extrêmement intéressants. Et ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est que tu cherches quelque chose qui traduit aussi des contextes, parce que ce qu'on peut voir dans ce personnage que tu vas montrer, donc au statut genré incertain, c'est aussi c'est un film qui sort en 2012. Il y a un moment assez particulier autour des forces armées des FARC en Colombie à ce moment-là. Alors il y a non seulement tout ce récit autour des voyageurs impériaux qui est en place à ce moment-là, mais c'est aussi un lien actuel par rapport à l'iconographie, à la représentation des FARC dans leur lien avec la jungle, avec l'obscurité, avec l'arme, avec ce moment où on attend d'une certaine manière un sacrifice avec plein de sang et où finalement on va se retrouver avec cette scène autour de ce bloc en glace qui finalement va enlever le maquillage, le camouflage du personnage principal.
Oui, c'est vrai que le contexte dans lequel je fais ce film était assez particulier parce que c'était le moment où précisément Ingrid Betancourt venait de sortir sous ses mémoires sur sa captivité. Et ce livre m'a fait un effet très fort. Je l'ai d'ailleurs inclus dans les textes, pas dans les textes qui apparaissent dans le film, mais dans les textes de ma recherche. Il y avait son livre et celui de Clara Lopez aussi qui a été séquestré avec elle. Et j'avais été assez impressionnée par la façon, enfin bien entendu, le contenu de ce livre est vraiment poignant et ce qu'elle a vu et vécu est terrible. Et pour moi, c'était un vrai choc d'apprendre que les FARC avaient des camps de concentration en fait dans la forêt, que les gens vivaient enchaînés les uns aux autres. Enfin, des choses qu'on ne pensait pas que des gens de gauche pouvaient, ou qui se revendiquaient de la gauche, pouvaient faire en fait. Ou comme ça, disons, il y avait encore une possibilité de romantiser, disons, les guérillas. Et quand ce livre est sorti, et celui de Clara Lopez et d'autres, j'ai lu plusieurs témoignages, toute possibilité de romantisme était un peu... Enfin voilà, il y avait un retour de réel fort. Mais dans la façon dont elle racontait les choses, eh bien, je voyais des échos des livres des missionnaires, beaucoup d'échos avec les récits des missionnaires. Donc c'était comme s'il y avait... J'ai eu une sensation un peu de doute, de grande remise en question, parce que je me disais il y a des conflits qui sont actuels, qui sont spécifiques à notre époque, et c'est comme si le langage était resté dans le passé, comme s'il y avait une impossibilité de remettre des mots sur des choses actuelles et qui nécessitent précisément qu'on réactive quoi, le langage, qu'on réactive la pensée. Et d'un autre côté, mais ce n'était pas que lié au contexte colombien, parce que Ingrid Betancourt, quand même, ici en France, elle a eu une grande projection, elle a été mise au centre par Nicolas Sarkozy et son gouvernement, et c'était un moment où Nicolas Sarkozy revendique comme ça la figure de Ingrid Betancourt, et en même temps, il veut créer le ministère de l'Identité nationale, où tous les matins, en me réveillant, en mettant la radio, il y avait Claude Guéant, qui disait des horreurs tous les matins sur ce que ça veut dire être français, etc., sur l'identité. Et donc, il y avait effectivement chez moi une vraie tension avec cette idée de l'identité, quoi. Et donc, c'est aussi pour ça que je voulais, d'une certaine façon, reprendre ces textes et reprendre cette matière coloniale et lui faire dire, en fait, son imposition, disons. Et c'est vrai que je cherchais aussi... En me posant la question de qui pourraient être les personnages qui apparaissaient, je me suis dit que ça serait intéressant que ça ne soit que des femmes, et que ça soit des femmes pas forcément, à un moment j'ai pensé peut-être des actrices colombiennes, ou, mais ça ne semblait pas juste, tout est une recréation, une remise en scène, donc toutes les actrices sont des personnes qui sont européennes, disons, deux danseuses lilloises et une amie qui est performeuse française. Et effectivement, l'idée, c'était aussi de jouer avec cette figure du soldat dans la jungle, qu'Ingrid Bitencourt, elle décrit vraiment entre les soldats et la forêt. Il y a tout un langage qui date d'une autre époque, quoi, qui est encore dans la dichotomie, en fait, dans la binarité civilisée-sauvage. Et donc, je pense qu'il y avait cette volonté dans le film de créer cette friction, d'essayer de dépasser cette binarité entre le civilisé et le sauvage.
Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions, des remarques, des observations ? Tout le monde a froid.
Merci. Vous parliez de... Vous vouliez parler de la manière dont Ingrid Bettencourt fait le récit de sa captivité et de la jungle, qui correspond aux récits coloniaux de siècles avant. Vous parliez de sa manière de s'exprimer à elle, de faire son récit, qui avait des similitudes.
Oui, plutôt formellement. Oui, plutôt formellement. Et disons que ça n'apparaît pas dans le film, et je prétendrai pas que ça. Mais je sais que dans le processus de travail, disons que l'envie de revenir sur ces textes et revenir sur cette histoire, c'était que je sentais que c'était quelque chose du présent. Ce n'était pas pour moi quelque chose qui était dans le passé, c'était quelque chose qui était dans le présent et qu'il fallait d'une certaine façon, remettre en scène, quoi, repenser ou mettre en dialectique, je dirais. Surtout, oui, dans le cas d'Ingrid Bettencourt, vraiment, j'encouragerais tout le monde à lire ce livre parce que c'est un récit qui est quand même un document, qu'il soit plus ou moins objectif, plus ou moins dans la véracité. Ça pose toutes les questions d'un document, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a dans la façon dont il s'est écrit, je sens qu'il y a encore certaines dichotomies qui viennent, ou certaines binarités qui viennent... voilà, qui ne sont pas forcément réactualisées. Et en même temps, comment lui demander aussi de... Enfin, je ne sais pas si on peut demander ça à ce livre précis.
Il y a un usage que tu fais dans le film des masques et d'un emploi de ces longs travelling qui sont... Alors là, intéressant, qui vont absolument dans le sens inverse des travelling de Candice. Alors c'est du coup, moi je voyais tout le temps ce face-à-face avec le film qui est pas et qui en même temps est là, qui donne, ou par plein de moyens, tu évoques un décor, tu animes un décor et en même temps tu parles de la manière comment ce décor-là est fabriqué et comment ces moments de ces représentations extrêmement... un masque en plastique, très visiblement, c'est presque grossier dans son emploi. Et dans cette visibilité de sa fabrication, ça parle justement de la fabrication d'une certaine représentation, d'une image qui parcourt les représentations. Je voulais justement t'interroger sur la volonté de laisser palpable, de laisser visible ces étapes de la fabrication du camouflage, du masque, la présence du son qui souvent est dans un écart avec l'image et qui en même temps travaille l'image par cette superposition.
Oui, là, il y a deux choses, parce que tandis que vous étiez en train de voir le film, j'étais en train de me balader dans l'autre partie de l'expo, et il y avait toutes les ombres portées des dessins de Candice, donc il y avait quelque chose de très intéressant qui se passait, donc c'était vraiment super. Disons que quand j'ai fait le film, j'ai travaillé de façon très associative. Il y avait bien sûr toute une réflexion comme ça sur différentes choses et presque l'envie de construire un essai, mais où la fiction ou le fantastique interférerait. Mais beaucoup des choses qui sont arrivées comme ça, de motifs, sont arrivées par des dessins et des processus d'association. Par exemple, le bloc de glace, c'est quelque chose qui est arrivé parce qu'à un moment, je suis revenue sur un film qui s'appelle Mosquito Coast, qui est un film de jungle avec Harrison Ford, où il crée une industrie de glace au milieu de la forêt amazonienne. Et c'est revenu en lisant un autre texte d'un des voyageurs. Donc il y avait une série d'associations comme ça. Mais j'ai compris plusieurs années plus tard, ou peut-être, je ne sais pas, oui, un peu après avoir fini le film, qu'il y avait eu une sorte d'entrechoc entre deux formes de modernisme quand j'étais en train de faire ce film. Un des films qui m'a le plus inspirée, c'était « Qu'il était bon, mon petit français » de Nelson Pereira dos Santos, qui reprend justement le récit de Hans Staden, qui était un Néerlandais qui était pris en captivité par les Tupinambas, des cannibales. Et il n'a pas été mangé, il a pu écrire ses mémoires. Et Nelson Pereira dos Santos, il refait ce récit de Hans Staden, en le transformant en français, il n'est pas néerlandais mais français, et à la fin du film il se fait manger par sa propre femme. Et donc et le film est aussi chapitré comme ça, avec des panneaux textes en rose bonbon qui reprennent les textes des voyageurs, etc. Donc je pense que le film est aussi à ce moment-là, comme je le disais tout à l'heure, j'étais très très influencée par le modernisme brésilien et par Oswald de Andrade, par Nelson Pereira dos Santos, tout ce mouvement en fait qui essaye de carnavaliser et d'ingurgiter les formes coloniales pour trouver une place ou pour trouver quelque chose de propre. J'aime pas trop ce mot, parce que je ne sais pas si ça peut exister, mais quelque chose de singulier à partir de structures qui peuvent être oppressantes et qui font partie d'une sorte d'impérialisme. Et beaucoup des stratégies qui ont été développées se passent par la carnavalisation. Donc c'est pour ça que dans le film, disons, je voulais qu'il y ait un moment... cette sorte de carnavalisation des textes, en fait, d'où l'oiseau, d'où la chauve-souris, etc. Je voulais qu'il y ait un côté vraiment, ouais, vraiment carnaval, peut-être comme un hommage justement à ce modernisme brésilien. Et c'est intéressant parce que du coup, dans cette architecture qui est très géométrique, disons, qui n'est pas forcément dans le carnavalisme, qui est dans une certaine exubérance pour ce qu'est le modernisme, il y avait, disons, cette réunion de ces différentes formes de métamorphose moderniste qui étaient présentes, et je m'en suis rendu compte, mais ça, ce n'était pas une intention du début, je l'ai fait intuitivement, j'ai connecté tout ça par la suite.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ? En ce cas, je pense qu'on va conclure non seulement ce débat, mais en fait toute cette série d'interventions des quatre derniers mois. C'est, Laura, en fait, tu as un rôle, je n'avais pas pensé à ça avant, mais un rôle beaucoup plus grand que juste ce moment. Et j'aime beaucoup qu'on termine justement avec un moment de trouble et avec un moment ou un film qui se place à un endroit qui interroge justement des articulations qui cherche des résonances à travers l'histoire, qui est, je pense, une préoccupation qui est très chère au travail de Candice Lin aussi. Alors du coup, le fait de se retrouver avec ces généalogies qui sont compliquées par une reconduction et en même temps une analyse, réinterrogation de représentation, me semble une fin... merveilleuse pour cette série d'interventions des derniers mois. Mille merci Laura, mille merci Teresa, mille merci Samir en son absence, et à vous d'avoir été avec nous tout cet après-midi. On va probablement prendre un verre quelque part si vous souhaitez continuer à discuter avec nous ou entre vous. Vous êtes les bienvenus. Merci.
Merci.
On va ôter, va enlever le maquillage, le camouflage du personnage principal.
Oui, c'est vrai que le contexte dans lequel je fais ce film était assez particulier, parce que c'était le moment où précisément Ingrid Betancourt venait de sortir ses mémoires sur sa captivité. Et ce livre m'a fait un effet très fort. Je l'ai d'ailleurs inclus dans les textes, pas dans les textes qui apparaissent dans le film, mais dans les textes de ma recherche. Il y avait son livre et celui de Clara Lopez aussi qui a été séquestré avec elle. Et j'avais été assez impressionnée par la façon... Enfin, bien entendu, le contenu de ce livre est vraiment poignant et ce qu'elle a vu et vécu est terrible. Et pour moi, c'était un vrai choc d'apprendre que les FARC avaient des camps de concentration en fait, dans la forêt, que les gens vivaient enchaînés les uns aux autres. Enfin, des choses qu'on ne pensait pas que des gens de gauche pouvaient, ou qui se revendiquaient de la gauche pouvaient faire, en fait. Ou comme ça, disons, il y avait encore une possibilité de romantiser, disons, les guérillas. Et quand ce livre est sorti, et celui de Clara Lopez et d'autres, j'ai lu plusieurs témoignages, toute possibilité de romantisme était un peu... Enfin, voilà, il y avait un retour de réel fort. Mais dans la façon dont elle racontait les choses, eh bien, je voyais des échos des livres des missionnaires, beaucoup d'échos avec les récits des missionnaires. Donc, c'était comme s'il y avait... J'ai eu une sensation un peu de doute, de grande remise en question, parce que je me disais qu'il y a des conflits qui sont actuels, qui sont spécifiques à notre époque, et c'est comme si le langage était resté dans le passé, comme s'il y avait une impossibilité de remettre des mots sur des choses actuelles et qui nécessitent précisément qu'on réactive quoi, le langage, qu'on réactive la pensée. Et d'un autre côté, mais ce n'était pas que lié au contexte colombien, parce que Ingrid Betancourt, quand même, ici en France, elle a eu une grande projection. Elle a été mise en centre par Nicolas Sarkozy et son gouvernement. Et c'était un moment où Nicolas Sarkozy revendique comme ça la figure de Ingrid Betancourt. Et en même temps, il veut créer le ministère de l'Identité nationale, où tous les matins, en me réveillant, en mettant la radio, il y avait Claude Guéant, qui disait des horreurs tous les matins sur... ce que ça veut dire être français, etc., sur l'identité. Et donc, il y avait effectivement chez moi une vraie tension avec cette idée de l'identité, quoi. Et donc, c'est aussi pour ça que je voulais, d'une certaine façon, reprendre ces textes et reprendre cette matière coloniale et lui faire dire, en fait, son imposition, disons. Et c'est vrai que je cherchais aussi, en me posant la question de qui pourraient être les personnages qui apparaissaient, je me suis dit que ça serait intéressant que ça ne soit que des femmes et que ça soit des femmes, pas forcément, à un moment j'ai pensé peut-être des actrices colombiennes, mais ça ne semblait pas juste, tout est une recréation, une remise en scène, donc toutes les actrices sont des personnes qui sont européennes, disons, deux danseuses lilloises et une amie qui est performeuse française. Et effectivement, l'idée, c'était aussi de jouer avec cette figure du soldat dans la jungle, qui, Ingrid Betancourt, elle décrit vraiment, entre les soldats et la forêt, il y a tout un langage qui date d'une autre époque, quoi, qui est encore dans la dichotomie, en fait, dans la binarité civilisée-sauvage. Et donc, je pense qu'il y avait cette volonté dans le film de créer cette friction, d'essayer de dépasser cette binarité entre le civilisé et le sauvage.
Vous vouliez parler de la manière dont Ingrid Betancourt fait le récit de sa captivité et de la jungle, qui correspond aux récits coloniaux de siècles avant. Vous parliez de sa manière de s'exprimer à elle, de faire son récit, qui avait des similitudes.
Oui, plutôt formellement. Oui. Plutôt formellement. Et disons que ça n'apparaît pas dans le film, et je ne prétendrai pas que ça... Mais je sais que dans le processus de travail, disons que l'envie de revenir sur ces textes et revenir sur cette histoire, c'était que je sentais que c'était quelque chose du présent. Ce n'était pas pour moi quelque chose qui était dans le passé, c'était quelque chose qui était dans le présent et qu'il fallait d'une certaine façon, remettre en scène, quoi, repenser ou mettre en dialectique, je dirais. Surtout, oui, dans le cas d'Ingrid Betancourt, vraiment, j'encouragerais tout le monde à lire ce livre parce que c'est un récit qui est quand même un document, qu'il soit plus ou moins objectif, plus ou moins dans la véracité. Ça pose toutes les questions d'un document, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a dans la façon dont il s'est écrit, je sens qu'il y a encore cette, certaines dichotomies qui viennent, ou certaines binarités qui viennent, voilà, qui ne sont pas forcément réactualisées. Et en même temps, comment lui demander aussi de... Enfin, je ne sais pas si on peut demander ça à ce livre précis.
Il y a un usage que tu fais dans le film et des masques et d'un emploi de ces longs travelling qui sont, alors là, intéressants, qui vont absolument dans le sens inverse des travelling de Candice. Alors, c'est du coup, moi, je voyais tout le temps ce face-à-face avec le film qui est pas et qui en même temps est là. Qui donne, ou par plein de moyens, tu évoques un décor, tu animes un décor, et en même temps, tu parles de la manière comment ce décor-là est fabriqué, et comment ces moments de ces représentations extrêmement... un masque en plastique, très visiblement, c'est presque grossier dans son emploi. Et dans cette visibilité de sa fabrication, ça parle justement... de la fabrication d'une certaine représentation, d'une image qui parcourt les représentations. Je voulais justement t'interroger sur la volonté de laisser palpable, de laisser visible ces étapes de la fabrication du camouflage, du masque, la présence du son qui souvent est dans un écart avec l'image et qui en même temps travaille l'image par cette superposition.
Oui, là il y a deux choses, parce que tandis que vous étiez en train de voir le film, j'étais en train de me balader dans l'autre partie de l'expo et il y avait toutes les ombres portées des dessins de Candice, donc il y avait quelque chose de très intéressant qui se passait, donc c'était vraiment super. Disons que quand j'ai fait le film, j'ai travaillé de façon très associative. Il y avait bien sûr toute une réflexion comme ça sur différentes choses et presque l'envie de construire un essai, mais où la fiction ou le fantastique interférerait. Mais beaucoup des choses qui sont arrivées comme ça, de motifs, sont arrivées par des dessins et des processus d'association. Par exemple, le bloc de glace, c'est quelque chose qui est arrivé... parce qu'à un moment, je suis revenue sur un film qui s'appelle Mosquito Coast, qui est un film de jungle avec Harrison Ford, où il crée une industrie de glace au milieu de la forêt amazonienne. Et c'est revenu en lisant un autre texte d'un des voyageurs. Donc il y avait une série d'associations comme ça. Mais j'ai compris plusieurs années plus tard, ou peut-être, je ne sais pas, oui, un peu après avoir fini le film, qu'il y avait eu une sorte d'entrechoc entre deux formes de modernisme quand j'étais en train de faire ce film. Un des films qui m'a le plus inspirée, c'était « Qu'il était bon, mon petit français » de Nelson Pereira dos Santos, qui reprend justement le récit de Hans Staden, qui était un néerlandais qui était pris en captivité par les Tupinambas, des cannibales, et il n'a pas été mangé, il a pu écrire ses mémoires. Et Nelson Pereira dos Santos, il refait ce récit de Hans Staden en le transformant en français. Il n'est pas néerlandais, mais français. Et à la fin du film, il se fait manger par sa propre femme. Et donc, et le film est aussi chapitré comme ça, avec des panneaux textes en rose bonbon qui reprennent les textes des voyageurs, etc. Donc, je pense que le film est aussi à ce moment-là, comme je le disais tout à l'heure, j'étais très très influencée par le modernisme brésilien. Et par Oswald de Andrade, par Nelson Pereira dos Santos, tout ce mouvement en fait qui essaye de carnavaliser, d'ingurgiter les formes coloniales pour trouver une place ou pour trouver quelque chose de propre. J'aime pas trop ce mot parce que je ne sais pas si ça peut exister, mais quelque chose de singulier à partir de structures qui peuvent être oppressantes et qui font partie d'une sorte d'impérialisme. Et beaucoup des stratégies qui ont été développées se passent par la carnavalisation. Donc c'est pour ça que dans le film, disons, je voulais qu'il y ait un moment, cette sorte de carnavalisation des textes, en fait, d'où l'oiseau, d'où la chauve-souris, etc. Je voulais qu'il y ait un côté vraiment, oui, vraiment carnaval, peut-être comme un hommage justement à ce modernisme brésilien. Et c'est intéressant parce que du coup, dans cette architecture qui est très géométrique, disons, qui n'est pas forcément dans le carnavalisme, qui est dans une certaine exubérance pour ce qu'est le modernisme, il y avait, disons, cette réunion de ces différentes formes de métamorphose moderniste qui étaient présentes, et je m'en suis rendu compte, mais ça, c'était pas une intention du début, je l'ai fait intuitivement et j'ai connecté tout ça par la suite.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ? En ce cas, je pense qu'on va conclure non seulement ce débat, mais en fait toute cette série d'interventions des 4 derniers mois. C'est, Laura, en fait, tu as un rôle, je n'avais pas pensé à ça avant, mais un rôle beaucoup plus grand que juste ce moment. Et j'aime beaucoup qu'on termine justement avec un moment de trouble. Et avec un moment ou un film qui se place à un endroit qui interroge justement des articulations qui cherchent des résonances à travers l'histoire, qui est, je pense, une préoccupation qui est très chère au travail de Candice Lynn aussi. Alors du coup, le fait de se retrouver avec ces généalogies qui sont compliquées par une reconduction et en même temps une analyse, réinterrogation de représentation me semble une fin merveilleuse pour cette série d'interventions des derniers mois. Mille merci Laura, mille merci Teresa, mille merci Samir en son absence, et à vous d'avoir été avec nous tout cet après-midi. On va probablement prendre un verre quelque part si vous souhaitez continuer à discuter avec nous ou entre vous. Vous êtes les bienvenus. Merci.
Merci.